Dieu, le père de tous, je dirais même le grand-père du soleil, avait une seule fille et l'homme de la campagne avait l'habitude de venir leur rendre visite. Et puis un jour, comme c'est tout à fait normal, cette fille était maintenant plus grande, elle était belle. Il en est tombé amoureux. Tombé amoureux de la fille de Dieu, ça n'est pas évident. Et lorsqu'il a demandé sa main au père, il s'est mis en colère et il leur a dit qu'ils devaient vivre ensemble, c'est vrai, mais qu'il ne devait plus les revoir et que lui-même n'irait jamais leur rendre visite. C'est ainsi que la fille de Dieu et l'homme, ce paysan de la campagne, allaient mêler leur sang et qu'on ne put dès lors différencier les gens, c'est-à-dire ils étaient tous ainsi métis. Ces métis qui vivent dans la campagne et puis il y avait les indigènes qui vivent dans la forêt. C'est ainsi que commença l'histoire d'un très beau pays, le Paraguay. Un Paraguay que nous allons visiter en compagnie de Patrick Buff, qui a peut-être commencé avec un peu de droit, avec un peu d'intérêt pour certains domaines. Et finalement, on termine comme photographe. On a envie de visiter un continent. On a surtout envie de rester longtemps dans un endroit. Alors, le Paraguay, ça fait déjà quelques années que vous le parcourez. Et l'histoire de tout à l'heure que j'évoquais entre la fille d'un dieu et un paysan nous rappelle qu'il y a effectivement des métis, qu'il y a des blancs, mais qu'il y a aussi des indiens au Paraguay.
Effectivement, je connaissais les blancs, je connaissais un peu les métis et je suis allé connaître les indiens.
Quand on imagine le Paraguay pour nous, la première image qui nous vient en tête, ça n'est peut-être pas véritablement une image paraguayenne. C'est souvent une image de film, il y a cette idée des missions jésuites. Il y a quand même des évocations qui sont souvent un peu fausses, qui sont vraies en même temps par rapport au Guarani. Mais en général, on ne connaît pas du tout le Paraguay, ni son histoire, ni ses voisins d'ailleurs. Situons d'abord le pays.
Alors le pays se trouve en plein cœur de l'Amérique du Sud, puisqu'il n'a pas d'accès à la mer. Il se trouve entouré du Brésil, de la Bolivie, de l'Argentine, et c'est un petit pays dont on ne parle jamais.
C'est vrai, là j'ai suivi à l'inverse des aiguilles d'une montre ces différents pays, ces immenses morceaux qui sont à côté du Paraguay. Le Brésil, c'est quand même le géant absolu, et vous évoquiez la Bolivie, ça c'est le côté andin, c'est une partie assez curieuse qui nous emmène déjà dans des altitudes assez considérables. Et en parlant de l'Argentine, on imagine déjà les pampas et les terres du sud qui sont plus au sud. Or en fait le Paraguay est un peu tout cela, il est un peu au milieu.
Il est un peu au milieu, il se divise en fait en deux parties qui est séparée par le rio qui porte le même nom, le rio Paraguay. À l'ouest, on trouve une immense plaine qui s'appelle le Chaco, qui est une plaine très sèche, très chaude, très, très polvoreuse, comme on dirait en espagnol.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière, c'est vrai qu'on a cette impression d'en manger toute la journée quand on traverse le Chaco.
Exactement, c'est un peu un paysage mexicain, si ça peut donner une image plus précise.
Ça dépend, il faut avoir été au Mexique pour comparer. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté cacté, ce côté un peu...
Poussière, cactus... peu d'eau.
Acacia, enfin c'est ces arbustes qu'on n'aime pas beaucoup voir et croiser.
Et puis quelques arbres qui sont toujours assez fantastiques, qui sont les palo borracho.
Le palo borracho, vous pourriez le décrire parce que c'est assez étrange.
C'est une sorte de femme enceinte, c'est-à-dire un arbre qui a un gros ventre, à l'intérieur duquel se trouve beaucoup d'eau, de manière totalement anachronique dans cette végétation rachitique et très sèche.
Vous commencez déjà à nous donner soif. Là. Traversant le Chaco, qui trouve-t-on? Que trouve-t-on? Et vers quoi va-t-on lorsqu'on a envie d'être dans le Chaco?
Alors, le Chaco, c'est une région qui, jusqu'à il y a quelques décennies, était très peu peuplée. Les seuls habitants étaient des Indiens, qu'on appelait les Indiens Moros, qui étaient redoutables, ou plutôt redoutés par les Blancs, qui s'appellent plus exactement les Ayoreos, qui continuent à vivre dans cette région, mais maintenant on les a pacifiés, si j'ose dire, en mettant pacifié entre guillemets. Et à partir des années 40, se sont installés les Mennonites, créant une sorte d'état dans l'état, à tel point que Stroessner, en son temps, il n'y a pas si longtemps que ça, leur a octroyé, leur a permis de ne pas payer d'impôts et les a exemptés du service militaire.
En reprenant les deux pôles de cette formule de vie dans le Chaco, les Indiens tout à l'heure étaient plutôt des nomades et des gens qui changeaient de lieu dans le Chaco. Est-ce qu'ils arrivaient à s'établir malgré tout dans des périodes assez longues?
Non, c'était plutôt des nomades dans cette région-là. Et les Ayoréo continuent à être nomades. En tout cas, il existe encore, et c'est le dernier groupe, un groupe sylvicole de quelques 20 personnes, qui sont des Ayoréo Totobiegosode, un terme assez exotique.
Quel beau nom, là, oui.
Et qui continuent à vivre de manière nomade dans le Chaco, mais d'ici quelques années ou d'ici quelques mois, ils vont être réduits. Pour reprendre le terme jésuite.
Les fameuses réductions, c'est-à-dire cette façon de créer un territoire tout à fait précis et de réduire au sens étymologique du terme la vastitude de leurs possibilités.
Exactement, mais là on peut parler alors de manière beaucoup plus catégorique de réserve. À la manière,
c'est-à-dire c'est un emprisonnement.
Tout à fait.
Quand vous parliez des Mennonites, il faut en dire encore deux mots parce que ce sont des gens qui sont venus de fort loin, historiquement parlant. On en retrouve un peu partout en Amérique, mais c'est vrai que les bases sont suisses ou allemandes. Et vous évoquez le fait de ne pas faire de service militaire. Ce sont des gens qui ont une philosophie, une religion. C'est une forme sectaire, disons, du christianisme qui les avait surnommés, d'ailleurs, je crois, les anabaptistes parce qu'ils refusaient à la fois un système de baptême et en même temps, ils refusaient le système scolaire, si j'ai bonne mémoire, et en même temps, ce système militaire de l'époque. Là, quand on parle du 16e ou du 17e siècle.
Effectivement, je ne me suis pas encore immergé dans les Mennonites. D'ailleurs, c'est assez difficile d'entrer dans leur communauté généralement parce que ces gens vivent entre eux. Et tout corps étranger est généralement rejeté. Peut-être un peu moins à l'heure actuelle, mais c'est quand même toujours le cas. Et ça dépend un peu des communautés. Dans le Chaco, il y a plusieurs communautés russes, communautés allemandes, qui ont des modes de vie un tout petit peu différents, mais en fait qui représentent tous la même communauté religieuse évangélique.
C'est-à-dire que l'idée de base, c'est de faire partie du monde paysan et de ne vivre pratiquement que de cela, ou de petit artisanat, ou de vendre ses fromages et ses produits, et en même temps d'être bloqué dans le temps, c'est-à-dire de refuser la consommation de certaines choses contemporaines. Je pense à l'électricité, la voiture, etc. Alors, est-ce que ces gens au Paraguay sont un peu différents?
Les Mennonites ont quand même évolué de ce point de vue-là, ils roulent en voiture, consomment de l'électricité, mais ils ont des croyances religieuses qui leur interdit un certain nombre de choses.
C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être soumis à certaines lois du pays. Et c'est pour cela qu'il faut un accord particulier, comme vous l'évoquiez pour le président, pour les laisser sans armée.
Mais je crois surtout que c'est une population qui vit en vase clos, notamment au niveau des mariages. On ne se marie qu'entre Mennonites, ce qui crée d'ailleurs des problèmes de sang. Au niveau des enfants, et ça c'est une réalité.
Ah oui, le problème consanguin est un gros problème.
Tout à fait.
J'évoquais simplement ces Mennonites parce que c'est aussi une chose très américaine, comme quoi on peut à n'importe quelle époque, même au XXe siècle, reprendre certains territoires comme ce Chaco tout à fait désert, et puis en faire un petit paradis quand même, parce que les Mennonites sont très laborieux et réussissent toujours dans le monde agricole.
Tout à fait, oui. Mais on peut préciser aussi qu'ils ont été aidés en cela par les Indiens. On peut évoquer rapidement les Ayoréo parce que c'est un cas intéressant. Donc c'était des Indiens qui étaient redoutés puisqu'il y avait des affrontements sanguinaires entre les Mennonites, les Blancs et les Indiens. Qu'ont fait les Mennonites? Ils ont recouru à une mission nord-américaine qui s'appelle Nouvelle Tribu, New Tribes, pour pacifier ces Indiens. New Tribes est arrivé sur place, il y a eu que des confrontations, ça a été difficile. Et finalement, ils ont réussi à les pacifier et les mettre dans une réserve, comme on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire les mettre dans la mission. Et actuellement, il y a toujours plusieurs missionnaires nord-américains qui sont sur place, mais qui ne font aucun travail d'aide économique à ces Indiens. Alors, le seul but, c'est de les évangéliser.
D'ailleurs, vous évoquiez ce New Tribes, enfin cette nouvelle tribu, ou cette nouvelle fonction pour voir une tribu. C'est souvent très contesté, soit dans le monde catholique, soit dans le monde évangélique normal.
Tout à fait. Il y a même eu de gros problèmes en 1986 qui ont eu des échos internationaux parce que New Tribes justement a voulu aller à la rencontre de ces Totobiegosode dont on parlait tout à l'heure, de ces Ayoréo sylvicoles, et il y a eu des confrontations qui sont allées jusqu'à la mort de plusieurs de ces Indiens. Et lorsqu'ils ont été réduits, entre guillemets, de nouveau, plusieurs se sont laissés mourir de faim parce qu'ils refusaient d'être captifs.
Vous aviez partagé le pays en deux avec ce fleuve Paraguay. Donnez-moi maintenant une image du Chaco. Une image, nous avons évoqué ces femmes enceintes sous la forme d'arbres pleins d'eau. On a imaginé ces cactus, ces cactés, ces acacias, ce côté terreux et poussiéreux. Est-ce qu'il y a une image qui vous a retenu avant que nous repassions le fleuve pour aller voir ce qui se trouve ailleurs au Paraguay?
Alors, il y a une image qu'on peut évoquer, peut-être sur laquelle on reviendra plus tard. C'est en se déplaçant un peu plus au nord. C'est une image de très colorée, pleine de plumes. de plumes de ces Indiens que généralement on associe plutôt au Brésil, mais qui existent et subsistent dans le Chaco et au Paraguay, qui sont les Indiens Chamacoco.
Nous irons chez les Chamacoco avant de passer le fleuve. Regardez juste à l'horizon, une tache de couleur, quelques plumes, une tête, un Indien. Patrick Buff, nous venons d'apercevoir notre premier Chamacoco. Nous sommes au nord du Paraguay. Nous sommes du côté de Bahia Negra, face au Pantana. Et on évoquait tout à l'heure le fleuve Paraguay. Et finalement, nous allons vivre 4 jours un peu difficiles dans ce Pantanal. J'aimerais que nous décollions avec un vieil avion militaire, Patrick Buff, juste pour nous replacer un peu dans la difficulté de l'endroit.
Alors pour accéder à Bahia Negra, qui est une base militaire de la marine, puisqu'on est à la frontière de la Bolivie et du Brésil, il y a 2 possibilités de s'y rendre. Il n'y a pas de route, donc c'est soit le bateau remontant le Rio Paraguay, un bateau qui, d'une manière surréelle, ne part jamais du port d'Asunción, ou alors l'avion militaire des forces aériennes paraguayennes qui vous emmène jusqu'à Bahia Negra, en quelques 5 heures d'avion dans un vieux coucou de la Seconde Guerre mondiale, un bimoteur qui servait d'entraînement aux parachutistes, dans lequel vous êtes assis le dos contre la carlingue, voyant vos voisins en face qui sont en train de trembler parce que l'avion est en train de patiner dans l'air ou bien parce qu'il commence à faire très très chaud, dans un bruit assez terrifiant. 5 escales, donc 5 atterrissages, 5 décollages pour arriver jusqu'à Bahia Negra, où là vous êtes accueilli par les jeunes soldats paraguayens qui sont basés dans ce petit village.
Moi je suis resté bloqué sur le fleuve. Et est-ce qu'il y a un côté Fitzgeraldo quand vous remontez des fleuves comme celui-ci? Je veux dire, est-ce que ces bateaux d'abord ressemblent à votre coucou de la dernière guerre?
Plus ou moins, ce sont des bateaux qui sont assez récents dans la perspective sud-américaine, donc qui ont peut-être 20 ans, 30 ans, qui n'ont pas l'air de mal fonctionner, mais qui ont souvent des avaries. Donc ils restent plantés au milieu du fleuve. Et l'aspect Fitzcarraldo n'existe pas parce qu'on n'est pas dans la région amazonienne, c'est plutôt un long fleuve tranquille.
Si je vous demandais un travelling par rapport à ce long fleuve tranquille, que verrions-nous en arrivant dans cette zone du Paraguay et ensuite dans la zone du Pantana?
Alors, on arrive dans la zone du Pantana à partir de Bahia Negra ou un peu plus au sud. Le Pantanal se trouve donc à l'est, sur la rive orientale du fleuve, et le Chaco se trouve juste en face. Le Pantanal, c'est donc un immense marais qui se trouve en territoire brésilien essentiellement, qui s'étend sur des milliers et des milliers de kilomètres carrés, dans lequel se trouve toujours et encore une faune absolument fantastique, composée notamment des célèbres jacarés, c'est-à-dire des crocodiles sud-américains, que l'on peut voir par vingtaines, trentaines, centaines, en train de prendre le soleil, la gueule ouverte.
Posé
sur la plage ou au bord des marais.
Couleurs?
Des couleurs, la couleur de l'eau, qui reflète le ciel, beaucoup d'oiseaux.
Couleur de l'eau?
La couleur de l'eau, bah, elle est très changeante, elle peut être bleue, elle peut être brune, elle peut être verte, elle peut être rouge avec les couchers de soleil. Et en cela, le Rio Paraguay est absolument superbe, il est très changeant. Et tout d'un coup, une fois je me suis trouvé face à un paysage d'Antarctique avec des reflets roses, blancs, c'est quelque chose d'absolument superbe.
Est-ce qu'il vous donne une impression de puissance et de largeur? On évoquait tout à l'heure les fleuves amazoniens, mais il y a ce côté beaucoup plus tranquille, c'est vrai, beaucoup plus calme. La bordure du fleuve est aussi plus raffinée. J'entends par là qu'elle est moins, elle ressemble moins à une muraille véritable.
Oui, il y a souvent des roselières ou des camalotes, qui sont ces sortes de grands radeaux végétaux. Sur lesquels s'accrochent beaucoup d'animaux. Et lorsqu'il y a des crues, c'est camalotes, c'est une sorte de grandes plantes aquatiques.
Ce sont des radeaux naturels qui déménagent.
Qui déménagent et qui vont jusqu'au Rio de la Plata, jusqu'à Buenos Aires, et qui emmènent vipères, araignées, et ce qui rend dangereux l'accès aux plages durant ces périodes-là, même jusqu'à Montevideo où je vis, ou à Buenos Aires.
Vous voulez dire par là qu'en fait, il y a un déplacement constant de faune en descendant ce fleuve, qui ramène en fait des bestioles sympathiques qui n'ont rien à voir à leur point d'arrivée.
Exactement.
Par rapport à notre pantanal et à cette zone de marais, vous avez fait ces sauts de puce tout à l'heure en avion et nous arrivons finalement à Bahia Negra. Comment, depuis Bahia Negra, allez-vous retrouver vos Indiens Chamacoco?
Alors, on peut déjà les trouver à Bahia Negra puisqu'il y a un petit village qui s'appelle Puerto Diana qui se trouve à un quart d'heure à pied de Bahia Negra, qui est en fait une mission de New Tribes.
Oui.
Qui est aussi présente, et là depuis les années 40, et qui a évangélisé une branche des Chamaco, qui sont les Ibitoso. Donc le contact est relativement facile avec ces gens-là, qui ont l'habitude de fréquenter les Blancs, puisqu'ils sont très liés à la base militaire qui se trouve là.
Vous êtes descendu de l'avion et vous avez aperçu votre premier Chamacoco. À quoi ressemblait-il? Il avait des jeans, bien sûr.
Il avait des jeans, une chemise, une casquette américaine, puisqu'au Paraguay, tout le monde porte des casquettes maintenant. Et la peau très, très sombre, l'aspect, les yeux bridés, généralement, mais l'aspect avenant. Et lorsque j'ai rencontré l'un des caciques, qui était donc l'un des chefs de tribu, qui était sur le chemin, c'est lui qui m'a accosté pour me demander ce que je faisais là et si j'avais besoin d'aide.
Quelle était votre allure? Des jeans, une casquette?
Des jeans, non, pas de casquette, je porte pas de casquette. Et plutôt chargé à cause de mon matériel photographique et mon sac d'effets personnels. Une veste et des patogas, voilà.
Tout. Donnez-moi la température du lieu.
Environ 35 degrés quand je suis arrivé, ce qui était encore une température assez agréable.
Est-ce qu'avec des yeux clairs comme vous, on supporte la luminosité de cet endroit?
Moi, j'ai pas de problème malgré mes yeux bleus. Peut-être que d'autres ont besoin de lunettes. En plus, j'évite les lunettes parce que pour photographier, c'est jamais très pratique.
La photo est une obsession ou c'est un moment de rencontre? Est-ce que vous avez cet avantage de la patience qui fait que le premier Chamacoco ne sera pas le premier sur la pellicule?
C'est ça. C'est tout un travail d'approche. Parce que pour moi, la photographie n'est jamais agressive. C'est une rencontre, un partage, et qui nécessite naturellement beaucoup de patience. Il me faut quelques jours avant de commencer à photographier ou prendre mes premières photos. Une fois que ce climat de confiance a été créé entre les personnes, qu'ils soient indiens ou blancs, et moi.
Quand on veut découvrir d'autres indiens ou des indiens moins connus, les 100 derniers, Ibitoso, ou enfin ils ont un nom encore un peu particulier.
Les Tomarahe.
Oui, c'est vous qui l'avez dit, Tomarahe. C'est Tomarahe quand on veut les retrouver, quand on veut les approcher. Et on sait qu'ils ne sont qu'une centaine, vous le saviez. Comment est-ce qu'on fonctionne? Il y a un cacique, bien sûr. Il y a une sorte d'autorisation tacite. Est-ce que ça se passe simplement avec le sourire? Est-ce que ces gens-là communiquent avec vous?
Dans mon cas, j'avais un contact à partir d'Assumption qui me permettait de prendre contact avec ces communautés. Certaines m'attendaient parce qu'elles connaissaient mon existence, et d'autres ne me connaissaient pas, mais j'avais des sortes d'introductions.
Donc il faut des clés.
Il faut des clés, sinon vous n'entrez pas, parce qu'il y a toujours ce principe de l'acceptation, qui n'est pas tacite, mais qui est explicite, du cacique et de la communauté qui se réunit généralement pour discuter avec vous pendant longtemps, pour savoir ce que vous venez faire ici.
Nous avons la clé, je dirais même les clés pour visiter cette région. J'aimerais maintenant que nous rentrions dans l'intimité de ces Tamareu ou Tamareu.
Alors donc depuis Bahia Negra, je suis descendu en bateau jusqu'à un petit port qui s'appelle Puerto Esperanza. Et de là, j'ai dû faire plus ou moins 3-4 heures à cheval pour arriver dans cette communauté de Tamareu.
De l'eau, du cheval et beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin encore, ces derniers Indiens, ils sont 100 et nous verrons comment ils vivent et comment ils communiquent. Patrick Buff, au début de notre rencontre avec le Paraguay, nous évoquions une légende. Est-ce qu'il existe des légendes sur la création du monde, sur, je dirais, ces histoires qui font que tout à coup on se sent véritablement ailleurs, que le temps change, que l'aspect des choses varie et qu'on est porté dans, enfin, on est reporté dans un autre monde. Est-ce que ça existe chez les Chamacoco ou chez les Tamaréo ou Tamaréo? J'y arriverai peut-être une fois.
Effectivement, ça existe et ça existe encore de manière très vivante. Alors, il faut faire une distinction entre différentes tribus. Parmi les Chamacoco, on a les Ibitoso, dont on a parlé précédemment, qui ont été évangélisés, qui ont perdu leur culture, leur tradition religieuse. Et on a les Tomarahe, qui, eux, conservent très vivantes ces traditions religieuses et rituelles qu'ils pratiquent encore régulièrement.
Sur le plan ethnographique, on les a décrits. Est-ce que ceux-là aussi sont en jean ou est-ce qu'on va commencer à voir apparaître des plumes? Parce qu'on est tous un peu nostalgiques. Quand on dit Paraguay, on ne pense pas forcément à autre chose qu'à mission, ça nous l'avons dit. Mais en même temps, on espère toujours que le côté ethnique ou une certaine pureté ethnographique existe encore. Est-ce qu'en allant si loin, en prenant encore le fleuve, encore le cheval, on retrouve au bout le jean et la casquette?
On retrouve au bout le jean et la casquette, mais pas toujours.
Donnez-moi le pas toujours et la légende.
Alors, le pas toujours, c'est lorsque les Indiens se dépouillent, quittent leurs vêtements pour se déguiser, revêtir leurs plumes et commencer leur rituel qui dure des semaines ou des mois.
Ça, c'est le moment où ils s'habillent.
C'est le moment où ils s'habillent.
Tout à l'heure, ils étaient déguisés.
Exactement. La légende qui était commune à ces deux tribus, Ibitoso et Tomarahe, continue à être racontée et à être célébrée à travers le rituel qui explique en fait la naissance du monde des Chamacoco.
Alors donnez-moi la légende.
La légende, c'est une femme qui, à un endroit particulier, a creusé la terre et de la terre sont sortis les Anapsers, qui étaient des êtres mythiques. Et à partir de là, il y a eu une lutte entre les Chamacoco et ces êtres mythiques qui étaient des êtres mauvais, jusqu'au massacre de ces Anapsers. Mais pourquoi les Chamacoco ont-ils pu les détruire? C'est parce que leur déesse, qui s'appelait Shnawurta, leur a indiqué quel était le point faible. Et c'est un peu le talon d'Achille, d'ailleurs, dans leur histoire, puisque c'était le genou qui était le point faible de ces Anapsers, de ces êtres mythiques. De sorte que les Chamacoco ont écrasé les genoux des Anapsers pour les détruire définitivement.
Quand vous parlez du talon d'Achille, quand vous parlez de cette façon de détruire à la fois une autre humanité, en fin de compte, pour la remplacer par la leur, est-ce que vous pensez que, comme le conte que je racontais au début, on est en train de recréer une autre formule légendaire pour expliquer le métissage, pour expliquer la casquette et le jean de tout à l'heure? Comment est-ce que nous sommes vus? Comment est-ce que vous êtes vus par ces gens-là? Est-ce qu'on a envie de vous écraser le genou aussi?
Non, pas du tout. Je crois que malheureusement, il y a une hiérarchie sociale ou raciale qui s'est établie et une domination du blanc sur l'Indien. Et dans certains cas, l'Indien est un être qui s'est plié à ce poids de la civilisation occidentale. Dans d'autres cas, il y a une recherche de revalorisation des éléments culturels, de la richesse culturelle de ces gens. Mais je ne crois pas qu'il y ait une lutte entre les Blancs et les Indiens. Il y a surtout, de la part des Indiens, la recherche d'une place qui sera la leur dans une société qui est la société paraguayenne, mais sans intégration.
Quand vous dites sans intégration, ça signifie aussi avoir un territoire pour soi. Nous étions assez loin de tout, là, dans cette région du Nord. Et ces 100 personnes qui vivent là représentent des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes mûrs. Et vous avez dit qu'ils étaient en train de s'habiller, comme ils se dépouillaient petit à petit de leurs habits. Et le moment de la fête, que représentent ces journées passées à retrouver les mythes, à retrouver les cris, les plumes, les danses et les moments de leur passé, en fait?
Je crois que aussi bien pour eux que pour les Guarani, dont on évoquait le conte au début, pour certains en tout cas, ces moments sont des moments très forts, car ils ont une très grande signification au niveau religieux et au niveau de l'identité. Je crois que pour eux, c'est le ciment de leur identité, c'est le lieu où ils peuvent réaffirmer leur identité d'indigène, d'indien, de Chamacoco, de Guarani, de Mbia, de Chiripa, de toutes sortes d'éléments qui vont faire leur richesse et leur cohésion face à un monde qui est toujours plus présent et qui cherche à les faire disparaître.
Alors j'aimerais maintenant que, juste pour un instant, vous vous mettiez totalement dans l'ambiance de cette fête. C'est-à-dire, vous allez vous placer, vous, au centre, comme photographe déjà un peu intégré, puisque je sais que vous ne lâcherez pas forcément votre appareil de photo à ce moment-là. Mais en admettant qu'on l'ait mis un peu de côté, comment est-ce que vous pourriez me faire un travelling de ce qui se passe? Parce que 100 personnes qui, à l'autre bout du monde, retrouvent leurs ancêtres et leurs mythes. D'abord, les ancêtres, ce n'est pas de la cendre pour un Indien. C'est vraiment une flamme, c'est quelque chose qui vit encore. Est-ce que cette filiation avec le passé est justement ce qui les aide à survivre?
Dans certains cas, oui. Par exemple, je pense à une autre communauté de Guarani qui se trouve aussi dans le Chaco, qui célèbre une espèce de carnaval qui a été récupéré par l'Église catholique. Mais enfin, le carnaval a toujours sa spécificité et c'est le retour des âmes à chaque fois lors du carnaval. Et on se met un masque qui représente cette âme qui va revenir.
Décrivez-le, vous avez le temps. J'entends, un masque signifie qu'on redevient ancêtre ou on fait revenir l'ancêtre et l'âme de l'ancêtre?
On fait revenir l'ancêtre revient et on prend son apparence pour montrer qu'il est revenu. Et donc on fabrique des masques qui sont à l'effigie de ses ancêtres.
Comment est-ce qu'ils se présentent?
Ce sont des masques qui sont faits généralement dans du bois, dans un bois très, très mou quand il est jeune. Ensuite on laisse sécher le masque et on le peint. On le peint avec des couleurs naturelles généralement quand c'est encore possible, puisqu'il y a quand même des difficultés pour retrouver certains fruits qui ont disparu. Et par exemple l'ourouku, qui est cette couleur rouge qu'on trouve un peu partout.
L'ourouku, on a toujours envie de se passer cela sur le visage.
Exactement. Oui. Et c'est un fruit qui parfois est difficile à rencontrer.
Mais ces tons naturels donnent une certaine vie. Comment est l'habillement de ces ancêtres?
Généralement, c'est un déguisement qui se fait avec des habits de tous les jours, en fait. Les Tiamakoko, par exemple, utilisent les robes de leurs femmes, parce que seuls les hommes peuvent participer au rituel, mais ils représentent des êtres féminins.
Le Baranal est un marais infini, est un endroit où tout à coup l'odeur, le toucher presque, c'est de la boue, c'est humide, et puis on se rend compte qu'on fait partie d'un monde qui n'est pas seulement à nous, mais qui est totalement végétal. Et dans ce monde végétal, il y a des millions d'insectes, quelques serpents qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a ce côté un peu grouillant, un peu étrange. Et on a l'impression que quand on parle d'Indien, même ici au Paraguay, comme on l'imaginerait en Amazone ou même dans les parties boliviennes qui sont assez proches, on imagine que tout ce côté grouillant, c'est l'origine des choses, c'est l'origine de la vie. On dirait que tout s'est passé au bord d'un fleuve, sur une plage où il y avait du limon. On revient un peu à ces idées de genèse, de début du monde, et en même temps, on a l'impression que tout cela leur monte à la tête et que leur cerveau a un fonctionnement un peu similaire. C'est-à-dire qu'il y a cette horreur du vide, on a l'impression que tout grouille. On les voyait tout à l'heure, en compagnie de Patrick Buff, s'habiller en femme, se planter quelques plumes sur le sommet du crâne, et puis jouer, danser. Il y a une ambiance, et dans cette simplicité, on voit que c'est leur esprit, en fait, qui est le plus occupé, et non pas la scène. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'intérieur d'eux-mêmes, les ancêtres qu'on évoquait, ces masques. Tout cela, c'est un scénario complet que l'Indien refait dans sa tête. Et en fait, quand on remet tout cela à plat, en images, on a l'impression qu'il se passe peut-être peu de choses. Mais le moment vécu est un moment totalement plein, totalement chargé. Il y a un côté magique, il y a un côté grouillant. Vous êtes encore dans la...
Il y a une très forte intensité, effectivement. L'origine que vous évoquiez est toujours présente près du fleuve Paraguay, dans la première communauté Huito, c'est où nous sommes arrivés en bateau. C'est le lieu sacré qui s'appelle Carchabalut, qui veut dire gros mollusque, car toute la terre est remplie de gros coquillages, de gros escargots marins qui forment des strates. Et les Indiens considèrent que c'est la nourriture des anapsœurs, de ces êtres mythiques, qui fait que cet endroit est le lieu où tout s'est déroulé, tout s'est fait, où il y a eu le massacre de ces êtres mythiques.
Quand vous évoquez la mort de ces premiers êtres sur un tas de mollusques, involontairement, là, de façon un peu psychologique, on va rechercher ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le limon, la vulve, le départ, la naissance, l'humidité. Tout cela fait penser effectivement à une véritable naissance.
Et en plus, dans une végétation, comme vous le disiez, une végétation qui est absolument délirante. Non pas parce qu'elle est haute comme la végétation amazonienne, mais parce qu'elle est très très hostile. C'est une végétation faite d'épineux, de pénétration assez difficile et de beaucoup d'insectes. Et je crois que l'insecte le plus intéressant dans ce cadre-là et qu'on perçoit le mieux, c'est le moustique. Le moustique qui apparaît dans les aldeas, dans les villages, le soir, au coucher du soleil. Et ce qui crée une ambiance très particulière, non pas à cause du bruit du moustique, mais du bruit des draps, des linges qu'utilisent les Indiens pour se frapper la coulpe, dirait-on, pour éviter que les moustiques s'approchent, de sorte qu'on entend tout le temps des bruits de claquements contre le corps à cause de ces par ce fait-là.
Pour échapper à ces animaux. Quand vous évoquez comme ça la tombée du jour, on vient de ressentir cette différence de température, on a vu ce rougeoiement étrange. On est entouré d'hostilité. Même le moustique qui apparaît maintenant, c'est encore un petit être sympathique, mais terriblement hostile. Je n'évoquerai pas la malaria ou des choses comme cela, mais enfin, on est maintenant plongé dans un monde qui a quand même quelque chose d'hostile et qu'on arrive très bien à aménager quand on est indien. C'est-à-dire qu'au fond, on arrive très vite à éviter, à exclure tout le mal pour retrouver le bien.
Et effectivement, l'aspect culturel et religieux permet d'une certaine manière de s'exclure ou de sortir de ce monde hostile et finalement de le dominer. Et lorsque les Chamacoco commencent leur rituel, c'est un autre monde qui commence à surgir de cette nature encore vierge. D'autant plus que lorsque j'étais avec eux il y a quelques mois, tout le Chaco était inondé par des pluies qui venaient de la Bolivie, ce qui rendait les déplacements très difficiles, à cheval ou à pied. Les Tomara, eux, n'ayant pas de chevaux, tout se fait à pied, donc c'est des 6-8 heures de marche pour aller au village le plus proche. Et ça crée une sorte de monde fermé puisqu'on est entouré d'eau. Seul le village n'est pas dans l'eau.
Vous avez vous-même fait la confusion entre Marais et Chaco, ce qui prouve bien que de manière un peu exclusive, vous avez eu des eaux qui vous entouraient de cette manière. Mais quand on est comme ça enfermé, d'autant plus avec ce que vous venez d'évoquer sur le plan climatique dans une petite tribu comme cela, comment se passe la vie de chaque jour? Tout à l'heure, je viens de m'endormir avec une dernière claque contre les moustiques. Donnez-moi un peu l'allure d'une maison, l'allure d'un éveil, l'odeur du matin, les premiers bruits, un rien de fumée, un repas.
Le matin, c'est le lever du soleil, le lever du jour qui réveille toute la communauté. On voit apparaître les premières fumées puisqu'on a toujours le foyer allumé. Et durant la nuit, il s'apaise, mais sans vraiment mourir.
Où avez-vous dormi?
Je dormais dans les maisons des Indiens.
Et comment sont les maisons?
Ce sont des maisons assez rudimentaires, faites en bois. Ça dépend le bois, en fait, qu'ils peuvent utiliser. Plus certains bois, par exemple, dans la partie orientale, on utilise plutôt de la palme. Mais les parois sont... Les bois sont si espacés que le vent...
C'est un clé, comme ça.
Exactement. Le gros problème, c'est pour un voyageur qui débarque dans ces communautés, c'est les puces qui vous assaillent et qui vous mangent toute la ceinture, les chevilles, les jambes.
On s'habitue très vite à ces petits détails, bien. Parce qu'on est marqué. C'est vrai que quand on dit avoir des puces, ça paraît terrible, mais quand on vit dans un milieu ambiant comme celui-ci, moi j'avoue que Les puces font partie du paysage, comme les moustiques de tout à l'heure, comme le serpent, comme l'Indien lui-même d'ailleurs.
Tout à fait, d'ailleurs après quelques semaines, généralement 2 semaines, on ne sent plus les piqûres de moustiques parce que le corps a fait ses anticorps.
On a sa ceinture, on a ses chevilles, on a son anticorps contre les moustiques. Vous évoquez la hutte avec ce côté en claire-voie comme cela, avec ce petit rien de brise qui peut vous dire que le matin la température a changé, les palmes sont sur le toit et la fumée peut sortir plus facilement. Donnez-moi votre repas maintenant, j'aimerais un peu d'odorat, un peu de goût.
Alors je crois que je vais vous décevoir malheureusement.
Non.
Pour des raisons économiques, de nombreux Indiens au Paraguay, là j'étends un peu le champ.
Vous pouvez.
Ne peuvent plus ni chasser, ni pêcher, ni cueillir les petits fruits comme ils avaient l'habitude de le faire auparavant. Pourquoi ? Parce que souvent la forêt a disparu. Pourquoi a-t-elle disparu ? Parce qu'il y a eu une forte déforestation, notamment de la partie orientale du Paraguay, pour en refaire des pâturages, ou parce qu'il y a un fort trafic clandestin de bois semi-précieux vers le Brésil. De sorte que les Indiens se sont trouvés sans leur milieu ambiant, sans leur environnement qui leur permettait de vivre et de survivre.
Je me sens obligé d'ouvrir une boîte de conserve.
De sorte que le seul moyen pour eux de survivre, c'est de faire des travaux salariés dans les champs de coton, par exemple, pour nettoyer les forêts, les défricher pour les patrons des estancias. En contrepartie, ils reçoivent un peu d'argent avec laquelle ils achètent leur nourriture. Et leur nourriture, actuellement, est essentiellement composée de riz, de pâtes, de riz, de pâtes, de riz, de pâtes, et de temps en temps, un peu de viande qu'ils peuvent acheter au vendeur ambulant qui vient sur sa pétrolette dans chaque communauté, qui soulève ces morceaux de viande pleins de mouches pour les vendre aux Indiens.
J'aime bien votre façon d'évoquer la vie au Paraguay parce que à l'instant où on glisse sur une peau de banane légendaire et qu'on réimagine un monde un peu édénique, on se retrouve tout à coup dans une réalité qui est même plus réelle que la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a carrément des chocs de civilisation et de mode de vie qui en fait sont assez bien assimilés bizarrement par l'Indien, même s'il en souffre. Il en souffre au deuxième degré. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont, qu'on le veuille ou non, là je ne fais pas de publicité pour ceux qui les détruisent, mais l'Indien a quand même une faculté d'adaptation qui nous paraît assez extraordinaire, même s'il souffre de manière purement raciale d'une extinction.
C'est une faculté d'adaptation face à une obligation, à une pression, et non pas le choix. Sinon c'est leur disparition automatique. Et un certain nombre de communautés sont en voie de disparition, je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Les Indiens Guarani, par exemple, risque de disparaître, en tout cas au niveau culturel, peut-être pas physiquement, mais au niveau culturel, malheureusement.
Depuis bientôt une demi-heure, nous avions aperçu une plume. Où est-elle ?
Alors, elle se trouve toujours dans le Chaco boréal. Et c'est vraiment une surprise de voir ces plumes apparaître. Les Tomaraheux, puisque ce sont les seuls qui continuent à pratiquer ce rituel de l'origine, qui est un rituel d'initiation pour les jeunes, se réunissent dans ce qu'ils appellent le Tobich, qui est une sorte de clairière sacrée où les femmes ne peuvent pas venir, et cela pour des raisons historiques. Cet endroit est relié à un cercle sacré qui s'appelle le Hara, et tout le rituel se passe entre ces deux espaces religieux. Le premier est surtout consacré à la préparation, où les hommes commencent à se peindre le corps en appliquant des mains sur leur corps.
Vous en faites le geste, on s'imagine très bien.
Des mains qu'ils ont trempées dans une sorte de pâte blanche ou noire faite à base de cendres. Ou bien ils commencent à se peindre le visage avec une pâte rouge qui pourrait être de l'ouroukou mais qui ne l'est plus. À défaut de cela, on peut même utiliser un bâton de rouge à lèvres.
Pourquoi pas ? Simplement la façon de dessiner des motifs sur les joues et sur le front ?
La peinture faciale n'est pas très 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 fine, ce sont plutôt des plaques rouges qui apparaissent. Par contre, la peinture corporelle est beaucoup plus précise et correspond à des clans en réalité.
Je sens qu'on va avoir des plumes.
Et après cela, les Indiens s'habillent. Tous ont le visage couvert par un sac de sisal.
Du jute normal.
Du jute normal, des fibres végétales qu'ils confectionnent eux-mêmes. Certains se recouvrent le corps de sacs, de sortes de hamacs qui n'ont pas été finis. Donc un sac, un hamac devant, un hamac derrière. Et à partir de là commence la mise en place des plumes. Des plumes qui sont soit en couronne, qui sont soit en bracelet, qui sont soit en bracelet pour les chevilles ou qui sont en ceinture. Alors des plumes de Nyandou, l'autruche sud-américaine, des plumes de perroquet, de hara, des plumes de canard noir, des plumes de garce blanche, des plumes roses. Et c'est vraiment un festival de couleurs qui emprunt tout cet espace religieux.
J'ai envie de voir bouger maintenant.
À partir de là, tout est prêt pour commencer le rituel. Les hommes empruntent ce chemin de quelques 800 mètres qui aboutit au cercle sacré, et c'est là qu'ils commencent à tourner autour de ce cercle en faisant tout un rituel, généralement par groupe, des groupes qui vont de 2 à 8 ou 10 Indiens qui tournent, qui crient, qui tournent, qui crient, avec un rituel très précis, très très précis, et qui est aussi destiné à être enseigné aux jeunes de la tribu. C'est la transmission culturelle et religieuse.
Y a-t-il un peu de musique ?
La musique se passe en deux étapes. Vous avez la musique qui surgit la nuit, lorsque les chamans, c'est-à-dire les chefs religieux, commencent à implorer leur dieu. Ils utilisent une maraca, c'est-à-dire une calebasse dans laquelle ils mettent des graines, et ils chantent. Alors c'est quelque chose d'assez assez surréel la nuit, quand vous êtes en train de dormir, que vous vous réveillez, que vous entendez au loin, mais pas si loin que ça, ces chants qui s'élèvent dans une nuit où l'on entend beaucoup de grillons et de sauterelles.
Une nuit, ce froufrou étrange des insectes, on évoquait grillons, on pourrait évoquer luciole aussi,
oui.
Ou en tout cas cette luminosité étrange, parce que quand on est curieux et qu'on a entendu en pleine nuit, je joue au Candide depuis le début, mais quand on entend pour la première fois le cri d'un chaman comme cela, et puis cette musique un peu particulière, il y a un son très guttural aussi. Immédiatement, les tripes se réveillent et puis on a envie de sortir son nez de la case à claire-voie. On voit qu'il y a un peu de luminosité, il peut y avoir un rien de lune, les lucioles que j'évoquais, et puis une matière, une sorte de matière comme ça qui fait qu'on entre à pas feutré dans le monde magique de l'Indien.
Exactement. Et en plus, c'est durant la nuit que l'aspect musical est le plus intense. Car durant le rituel, qui se passe généralement de jour, c'est-à-dire l'aspect des plumes, des danses et des pratiques religieuses, le soir est consacré à la musique et les hommes se réunissent dans le hara, ce cercle sacré, dans une obscurité absolue lorsque j'y étais, parce qu'il n'y avait pas de lune à ce moment-là, de sorte que vous devinez quelque peu les silhouettes, mais sans savoir qui est qui. Et les hommes commencent à chanter, les chamans commencent à chanter, ils sont 3, 4, 5, durant une demi-heure plus ou moins, puis tous les hommes commencent à se réunir autour du cercle, à tourner autour du cercle et à chanter. Alors ce sont des chants très monotones, mais très précis, ce sont des cris, et là, lorsqu'on parle des cris d'Indiens, effectivement, on se retrouve dans ce monde qui est le monde d'autrefois. On est reporté à nombreux siècles en arrière, on se demande où on est.
Quand vous parlez de cris et quand vous parlez aussi de monotonie, est-ce que c'est justement ce rythme, cette perfection rythmée qui fait que, involontairement, je suis en train de faire un cercle avec mon doigt, on a l'impression de cette façon de chaque fois nous ramener à l'origine pour revenir encore à l'origine, même au cours du rituel, vous parliez du cercle et de cette façon de danser. C'est justement dans la monotonie qu'il y a la force de l'Indien. C'est dans la répétition des choses à l'infini, dans cette horreur du vide qu'on évoquait tout à l'heure.
Et la répétition des jours, et la répétition de l'origine, et cette recherche d'identité dans ce qui a été leur origine, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Effectivement, le cercle est peut-être le cercle parfait qu'on trouve dans d'autres régions du monde.
C'est-à-dire que c'est quand même une chose qui est curieuse et que nous ne faisons que découvrir à peine, c'est cette non-évolution volontaire de l'Indien, cet équilibre étrange qui fait que les choses doivent sans arrêt s'équilibrer sur le plan énergétique. Donc en fait, le respect de l'énergie qui les entoure, le respect de la forêt, le côté écologique, le fait de savoir que tout revient à son jour de départ et qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas d'avancement, qu'il n'y a pas de ligne vers le futur ou de ligne vers le passé. L'Indien qui pense systématiquement que tout revient sur lui-même.
Il n'y a pas de développement au sens où on l'entend, effectivement. Mm-hmm. Mais je crois que malheureusement, ce cercle est brisé aujourd'hui. Parce que cet équilibre qui est l'élément essentiel, la condition sine qua non à leur vie, à leur survie, n'existe plus parce qu'il a été brisé par des éléments extérieurs. Ces éléments extérieurs, c'est la civilisation occidentale.
Donc le cataclysme, c'est nous par rapport à cet équilibre. C'est un peu ce que je voulais vous faire dire.
Exactement.
Mais en l'occurrence, en revenant au côté musical, est-ce que à travers cette monotonie ou ces instants un peu exceptionnel, voire magique, je ne sais pas, d'autres Indiens du pays conservent encore des rituels qui leur permettent de retrouver comme cela pour quelques instants, pour quelques heures, pour quelques jours, leur fonction de base.
Quelques tribus continuent à pratiquer ces rituels, et là encore on se retrouve à 500 ans en arrière, ce qui a été mon cas lorsque je suis entré dans le Hopi, qui est le temple cérémoniel des Indiens Biya-Guarani qui se trouve dans la partie orientale du Paraguay, cette partie qui avait été réduite par les jésuites.
Les Mbia, ce sont des Indiens qui ressemblaient vraiment à ceux du film Mission, il y a 500 ans. Je veux dire, est-ce que vous avez, vous, en tant que connaisseur du Paraguay, comme moi, en connaissant l'Amérique latine, est-ce que vous avez été aussi un peu choqué par la mise en page et la mise en scène de ce film qui nous a tous touchés quand même?
Effectivement, la première fois que j'ai vu Mission, j'ai trouvé que c'était un beau film. La seconde fois que je l'ai vu, après avoir parcouru le Paraguay et vécu avec les Indiens, il y avait une grande différence dans la mesure où les Indiens du film Mission sont des Indiens, si je ne me trompe pas, qui ont été filmés en Colombie et qui n'ont absolument rien à voir avec les Indiens Guarani.
Les Mbia de tout à l'heure que vous évoquiez, là, du côté oriental du pays, sont des Indiens qui ont également réussi à vous plonger dans le passé, mais c'est seulement au moment des fêtes ou des rituels?
Non, pas seulement à cette occasion-là. Là, c'est l'occasion la plus intense, la plus ramassée, où vous entrez dans une maison qui est complètement fermée.
Emmenez-nous quelques instants dans ce Hopi.
Où vous êtes confronté à une obscurité totale. Vous avez juste deux petites bougies qui brûlent à chaque extrémité de cette maison, de ce temple. Et lorsque vous pénétrez, c'est une chaleur suffocante, une fumée intense dégagée par les pipes. Ces pipes qui ont une importance fondamentale parce qu'ils mettent les Indiens en relation avec avec leurs dieux.
Le tabac est un véhicule.
Le tabac est un véhicule, il permet aussi de soigner en le crachant sur le malade. Et c'est des danses de chamans avec les enfants, des musiques des chamans avec les maracas, des femmes avec les taquapu qui sont ces bâtons de bambou creux qu'elles frappent contre le sol. Et c'est toute une atmosphère qui vous plonge réellement dans un autre monde.
Quand vous êtes dans ce Hopi, est-ce que vous êtes seul en général, Patrick Buff? Est-ce que vous êtes invité? Est-ce que vous vous sentez privilégié chaque fois que vous arrivez à vivre un instant d'émotion comme cela?
Dans la mesure où je voyage seul, où je travaille seul, donc personne ne m'accompagne, et je suis invité là, dans ce cas précis, j'ai été invité par la communauté à participer à cette cérémonie rituelle. Et pour moi, c'était vraiment un privilège. Et je crois qu'ils le considéraient comme cela, car rarement les Blancs entrent dans ce genre de lieu, et en plus les photographient.
Patrick Buff, il nous reste 4 minutes, plus ou moins. Si je vous demandais d'évoquer un morceau d'histoire étrange, un morceau guarani toujours, avec, je ne sais pas, par exemple, une évocation carnavalesque ou peut-être une formulation qui sort de l'ordinaire. Est-ce que vous avez vécu un autre moment qui sortait totalement de la norme au Paraguay?
Ce sont des petits moments. Je pense, en parlant des Guarani et des Mbia, à ce jour qui était un jour de Pâques en plus, qui n'était pas un jour donc religieux pour eux, mais qui avait quand même une connotation un peu différente, où on attendait le repas de midi, ou de 1h, ou de 2h, ou de 11h, peu importe le temps. Et on s'attendait, enfin je m'attendais à manger des pâtes comme d'habitude ou du riz. Et tout d'un coup, sans prêter garde, je vois qu'un des indigènes tord le cou à une poule. Bien, nous aurons de la poule à midi. Alors on m'a expliqué pourquoi la poule avait été tuée si précipitamment et sans qu'on s'y attende et sans que ça soit prévu. Tout simplement parce que la poule avait voulu chanter comme le coq. Et si l'on ne tue pas la poule à ce moment-là, un malheur peut s'abattre sur la famille.
Vous entendez par là que cette poule avait simplement envie d'imiter son cher ami le coq ?
Exactement.
Et le fait de la manger, bon, ça c'est de nouveau une formule en exorcisme, mais au moment d'une fête comme cela, c'est une viande exceptionnelle, puisque vous évoquiez la nourriture un peu commune.
Exactement, et en plus, comme les poules sont assez rares aussi dans la communauté, c'est quelque chose de rare. Mais cette croyance de la poule qui a chanté comme le coq et qui peut faire que ça batte un malheur sur la famille n'empêche pas qu'on va tuer la poule et la manger.
Donc c'est de nouveau cette histoire d'équilibre de tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait tordre le cou à certaines choses au Paraguay pour que certaines poules arrêtent de chanter comme des coqs? Je veux dire, par là, est-ce qu'un Indien est conscient du mal qu'il subit à cause de notre économie, à cause de ces malheurs qui s'abattent sur lui? Est-ce que de temps à autre, vous pensez que, à part le fait qu'il cherche un endroit pour lui, il a quand même à l'intérieur de soi envie de bouger et d'aller jusqu'au gouvernement et de faire quelque chose? Est-ce que 1492 reste une date qui le dérange?
Peut-être pas la date 1492, mais ses conditions de vie et la condition que la société paraguayenne lui fait vivre, effectivement. Et là, il y a une conscience toujours plus grande des Indiens, qu'ils soient Guarani ou de la partie occidentale du Paraguay, de vivre, je crois, et il faut le dire, de vivre dignement.
Et cette dignité, ils la méritent et ils la retrouveront. Est-ce que vous avez l'impression que ces réductions, ce sera obligatoirement la réduction définitive des Indiens du Paraguay? Est-ce que ce que nous venons d'entendre depuis une heure va disparaître?
Je crois que petit à petit, les Indiens vont perdre cette identité, cette culture, cette ethnocide d'exister. L'Indien en tant qu'Indien va disparaître.
Est-ce qu'il en est conscient lui-même?
Je ne crois pas.
Est-ce que vous pensez que le jour où la casquette restera sur la tête et qu'il n'y aura plus de plumes, il n'y aura pas d'Indien pour l'écrire, pas d'Indien pour le dire, pas d'Indien pour le raconter comme vous le faites?
Je crains qu'il n'y ait plus beaucoup d'Indiens parce que la transmission aux jeunes qui sont les seuls à pouvoir poursuivre dans cette voie ne se fait plus réellement.
Une toute petite pointe de nostalgie.